Mimi, arrête avec ta tronçonneuse. Ah, on va louper le début.
Chers auditeurs, bienvenue dans l'Agité du local. Nous sommes le jeudi 26 octobre et aujourd'hui, Lucie est de retour avec nous. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de l'épicerie sociale de Laval, le Coup de Pouce. Nous avons pu échanger avec Virginie Lépine, directrice de l'épicerie, des membres de l'équipe salariée, des bénévoles, Patricia Comer, la directrice action sociale du CCAS de Laval, et Marjorie François, adjointe au maire de la ville de Laval. On découvre le fonctionnement aujourd'hui de l'épicerie sociale, qui peut en bénéficier et qui peut en bénéficier. On aborde le sujet de la hausse de la précarité aujourd'hui et l'impact que peut avoir un tel basculement. Dans la suite de cette émission, comme chaque jeudi, on a le plaisir de retrouver notre reportage Pensée locale, proposé aujourd'hui par une des radios de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Et aujourd'hui, ça sera Michel Sourget de Radio Alternante qui nous emmène à la découverte des orchidées avec la Société d'orchidées Loire-Océan. Mais cette émission serait incomplète. Lucie, sans ton coup d'œil sur les actualités locales, c'est à toi.
Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui j'ai envie de me concentrer sur les bonnes nouvelles. Alors je vais commencer par ça. Les anciens locaux de l'entreprise Maline, à Mellet du Maine, vont être transformés en grandes maisons partagées pour seniors. C'est un super projet porté par l'association À Quatre Mains, dont l'idée est de rompre avec l'isolement des personnes âgées, tout en leur laissant une autonomie. Il faudrait être patient cependant, puisque l'ouverture est prévue pour 2025, mais le projet sera présenté à partir de janvier 2024. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner au 06 09 24 73 36 ou par mail à a4mains04@gmail.com. Une autre initiative, c'est dans les Couévrons. Gilles Langlois, qui est auteur et metteur en scène, a monté une formation pour devenir comédien. Son école est à Mésanger, tout près d'Évron. Et son but est de former, transmettre sa passion à des débutants pour la plupart, qui rêveraient de monter sur scène ou de passer devant une caméra. L'objectif est d'acquérir un niveau suffisant pour les concours d'entrée, à Paris ou en province. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez contacter la compagnie théâtrale L'Envol.
Et pour ceux qui sont déjà très sûrs d'eux, vous aurez d'ailleurs accès à une scène ouverte ce week-end, je crois bien.
Tout à fait Margot, samedi et dimanche après En Paille va se tenir la 10e édition de Bar Brock, un événement solidaire organisé main dans la main par les secours populaires, et paillassos locaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est assez simple. Les deux associations s'occupent de proposer une scénographie dans laquelle tout est à vendre. Et cette super scène est ensuite ouverte à tous les publics qui le souhaitent pour s'exprimer, aussi bien amateurs que professionnels.
D'ailleurs, les bénéfices permettent de soutenir les projets des associations, accueil des publics, solidarité avec les plus démunis, etc.
Exactement Margot. Et pour la scène ouverte, chaque artiste sera accompagné de techniciens et disposera de la scène pendant 15 à 45 minutes maximum. Toutes les propositions sont les bienvenues, que ce soit musique actuelle, big band, DJ, théâtre, danse, art de rue, etc. Les deux seuls critères sont que les propositions soient compatibles avec les capacités d'accueil et que ça ne soit pas trop redondant, parce que 4 formations reggae par exemple, ça pourrait peut-être pas plaire à tout le monde. Les artistes qui, parmi vous qui ont envie d'y participer, je vous invite à contacter l'association Paillassos Locaux à assopaillassoslocaux@yahoo.fr ou au 02 43 08 23 74. Pour le public et les artistes, ça se passera au 2 4 rue des Rosiers après En Paille, samedi 28 et dimanche 29 de 18h à 3h du matin. Bon, et puis, autre petit rendez-vous culture, vendredi au Café du Garage, le collectif OXO vous propose un spectacle de poésie musicale et de chant signé. Le chant signé, c'est du chant traduit en langue des signes en live. C'est un collectif qui aime bien expérimenter et qui vous donne donc rendez-vous à 20h30 au Café du Garage avec une participation au chapeau.
Bon, et maintenant Lucie, si on parle sport pour terminer, histoire de rester sur notre bonne lancée de ces derniers jours.
Avec plaisir Margot. Tout d'abord, je ne vais pas manquer de vous tenir au courant sur la Ligue 2 de foot qui a lieu en ce moment. Notre stade Lavallois va affronter Amiens ce samedi 28 octobre à 19h après sa défaite contre Saint-Étienne. Et puis pour changer, je vais vous parler d'escalade. En effet, aujourd'hui commence le tournoi de qualification olympique TQO pour les intimes, à l'espace Mayenne. Ce sera pour les épreuves combinées blocs et difficultés. Et c'est ce qui va permettre aux grimpeurs de décrocher un dossard pour les JO.
On est dans une époque où partout en France, et pas seulement, tout le monde est concerné par l'inflation et certains la subissent plus que d'autres. Alors aujourd'hui et demain, j'ai envie de passer le pas de la porte de l'épicerie sociale Le Coup de Pouce à Laval et comprendre comment fonctionne cette structure, comment elle accompagne les personnes en situation plus précaire et regarder ensemble avec Marjorie François, adjointe au maire de la ville de Laval, la situation actuelle des foyers en situation de précarité et ce qui est mis en place dans la ville de Laval comme soutien.
Bonjour, je suis Virginie Lépine, responsable de l'épicerie sociale du service aide alimentaire et solidaire du CCS de la ville de Laval. Alors l'épicerie, son premier objet c'est l'aide alimentaire où les personnes viennent choisir les produits qu'ils veulent avec un chariot. Ils payent une partie du montant du panier, 10%. Et l'autre principe de l'épicerie de Laval c'est l'accès à des activités dites de lien social ou un accompagnement budgétaire ou une orientation vers le service emploi.
Qui peut bénéficier de l'épicerie sociale?
Alors ce sont les Lavallois. Il peut y avoir des personnes de Changé et depuis septembre de Louvernay. Les personnes doivent se rapprocher d'un référent social qui souvent est une assistante sociale du département, qui complète une fiche de liaison que mes collègues reçoivent pour l'instruction. On l'étudie, on repère ce qu'on appelle le reste pour vivre. Donc c'est un montant qui est de 7 euros par jour et par personne pour manger et les menus dépenses. Et nos élus valident les accès.
Isabelle Henrière, responsable de la partie magasin de l'épicerie sociale Coup de Pouce à Laval. Donc les produits nous arrivent essentiellement de la banque alimentaire en don, également d'un supermarché à Laval, Intermarché, où on fait également des achats de surgelés, de produits frais, de produits conserves. Et hygiène également, donc de dons solidaires. Je fais des commandes une fois par trimestre à peu près. Alors au niveau des dons de la banque alimentaire, ça a beaucoup réduit depuis un moment. On a la chance de pouvoir faire un peu d'achats quand même.
Nous sommes 6 salariés à l'épicerie. Avec deux collègues sur la partie administrative, deux animatrices, une responsable de la partie magasin et moi-même. Et 32 bénévoles nous accompagnent. Chacun a sa mission, chacun vient environ une demi-journée par semaine. Ça va de l'approvisionnement, aller chercher au magasin, à la banque alimentaire, les produits, avec enregistrement dans le logiciel et mise en réserve ou en magasin. Ensuite, on a les bénévoles qui sont sur les ventes, à l'accueil du public, puis dans la partie magasin sur le conseil, sur l'aide à la caisse et la caisse. Et nous avons quelques bénévoles qui nous soutiennent sur les activités. Soit ils en animent une, soit ils sont avec une des collègues animatrices sur un atelier. 32, c'est pas mal. Nous avons la chance d'être repéré et bien apprécié, on donne envie en fait de venir en tant que bénévole. Ma collègue Christelle, qui s'occupe des bénévoles, a pu étoffer l'équipe de 5-6 bénévoles là depuis le printemps, donc c'est plutôt pas mal pour nous. En fait, quand les gens viennent s'inscrire, il y a un temps avec les collègues, donc Christelle et Vanessa, pour faire connaissance, reprendre les éléments que nous avons déjà, mais aussi peut-être aller plus loin et commencer à libérer un peu la parole. Le fait de venir faire les courses tous les 15 jours, ça permet de se revoir de temps en temps. Mais la notion de contrepartie avec l'activité toutes les semaines, ça permet vraiment d'installer dans la durée la prise de connaissance, le fait de se faire confiance et d'avancer finalement dans son projet de vie. Moi, ce que j'aime, c'est quand je me promène dans l'épicerie, je vais d'un côté ou de l'autre, de voir un usager qui est avec un bénévole et puis en mode un petit peu confidence, qu'est-ce que ça donne votre projet, où vous en êtes. Et ça, j'aime parce que un bénéficiaire peut se trouver à n'importe quel moment à l'épicerie et trouver une oreille pour échanger, discuter, faire part de toutes leurs préoccupations et puis avancer tout simplement.
Donc je suis Marjorie François, je suis adjointe au maire de la ville de Laval et vice-présidente du CCS de Laval. Alors, il faut savoir déjà que sur Laval, on est à 17% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et on monte jusqu'à 20%, 25% des personnes qui vivent avec 100 à 200 euros au-dessus du seuil de pauvreté. Et en ces circonstances d'inflation, ben forcément avec 100 ou 200 euros de plus, là où on arrivait à gérer son budget, ça devient beaucoup plus compliqué avec la flambée des prix, avec l'énergie, enfin les denrées alimentaires, c'est ce qu'on a vu ces derniers temps, et c'est là où ça bascule. Donc en fait, ces personnes-là se retrouvent fragilisées là où avant, c'était difficile, mais elles y arrivaient. Donc là, ça devient compliqué, et on voit ça en fait à plusieurs niveaux, enfin différents niveaux de population. On a les étudiants. On sait que pour les étudiants, ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir suivre des études. S'il faut souvent travailler en même temps, ça devient compliqué. Avec les loyers, les charges, ça devient très, très compliqué. On a aussi les retraités, parce que les retraites, pour beaucoup, sont assez faibles. Donc, ça devient compliqué. Et on a beaucoup aussi de travailleurs pauvres, donc des gens qui ont une activité et qui n'arrivent pas à s'en sortir avec le salaire. Il faut enlever cette idée que ce sont forcément les gens aux minima sociaux qui sont en difficulté. Non, il y a aussi des personnes qui sont en activité, qui ne s'en sortent pas, et des étudiants, et aussi des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui n'y arrivent plus aujourd'hui. Alors, ce qu'on fait au niveau de la ville, c'est que on a une politique de faire plus pour ceux qui ont moins. On a eu la mise en place de la cantine à 1 euro aussi pour aider les familles, notamment si on n'a pas parlé des familles monoparentales ou si c'est compliqué. Quand on est seul avec des enfants, de pouvoir s'en sortir. Donc, la cantine à 1 euro aussi pour que l'enfant puisse bénéficier d'un repas équilibré dans la journée. Il y a également les mises en place de camps aussi, de mini-camps, à prix abordable pour accéder aux vacances. Enfin, voilà, ce sont plein de petites choses. On essaye de mettre des choses en place pour aider ceux qui ont le moins. Et on continue à travailler pour pouvoir aller vers les gens. Il y a le territoire zéro chômeur qui se met en place pour pouvoir sortir durablement les personnes exclues de l'emploi et très éloignées de l'emploi. Il y a l'espace senior aussi pour accompagner les personnes isolées, pour pouvoir aussi les repérer, parce qu'on a aussi besoin d'aller repérer les gens qui ont besoin d'aide, parce que c'est compliqué encore aujourd'hui de pousser la porte d'une épicerie sociale pour demander de l'aide, pour aller au CCAS aussi, pour dire je suis en difficulté, qu'est-ce que je peux avoir, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à leurs droits en fait. Il faut travailler là-dessus.
Plusieurs recherches, notamment une menée par ATD Carmonde et l'université d'Oxford, montrent qu'il y a un sentiment de honte qui accompagne une situation de précarité.
Tout d'abord, effectivement, on est dans le non-jugement. Un accident de la vie, ça peut arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri d'une maladie qui fait que, au niveau de l'emploi, c'est plus compliqué. Il peut y avoir tout un tas de choses qui font qu'à un moment, on est en difficulté. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide et aussi de savoir qu'à certains moments, on a des droits aussi et il faut pouvoir se renseigner sur ce dont on a le droit. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des dispositifs comme l'épicerie sociale ou le CCAS où on pourra accompagner les gens. En fait, il faut se dire que c'est temporaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui viennent passer 3 mois, 6 mois à l'épicerie sociale, qu'on accompagne sur quelques mois. Alors bien sûr, il y a des personnes c'est pour qui c'est plus long parce qu'il y a des freins multiples qui sont là. Mais il y a des personnes qu'on voit passer et aujourd'hui, on voit avec le sourire qui ont retrouvé goût, qui ont retrouvé confiance en eux et qui s'en sortent aujourd'hui. Donc il n'y a pas de honte à avoir.
En fait, ce qu'on remarque, c'est souvent le problème de santé qui déclenche le déséquilibre. On a un problème de santé, on ne peut plus forcément aller au travail, on peut ruminer, on peut ne pas être bien dans sa peau, dans sa tête. Forcément, ça a un impact sur sa vie sociale, sa vie familiale, la vie financière. Donc oui, les personnes qui viennent à l'épicerie, ce ne sont pas des personnes qui ont uniquement une problématique financière, mais qui sont fragilisées plus globalement.
Dans la suite de cette émission, on retrouve notre reportage Pensée locale de cette semaine. Mais avant ça, vous connaissez sans doute Dominique Fils-Aimé. Écoutez bien parce qu'elle sera en concert à l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe le 18 novembre. C'est donc Give Me a Reason, extrait de son quatrième album.
Dream of you every night now. I dream of you every night now. I think I'm in trouble.
Chaque jeudi, on découvre un nouveau reportage de Pensée Locale et aujourd'hui, il nous est proposé par Michel Sourget de Radio Alternante. Il est allé à la rencontre de 4 membres de la Société d'Orchidées Loire-Océan, Jocelyne, Steven, Christian et Roland. Parce qu'il faut savoir qu'en France, environ 160 espèces d'orchidées rares sont répertoriées. Les orchidées sauvages ou indigènes sont des plantes qui n'ont pas de peau et qui poussent dans la nature. À Sainte-Luce-sur-Loire, 5 espèces d'orchidées cohabitent grâce à l'entretien de la Société d'Orchidées Loire-Océan. Celle-ci a constaté qu'un terrain était envahi par des plantes opportunistes et que les orchidées disparaissaient.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Bonjour, les orchidées sauvages, on peut dire aussi orchidées indigènes ou orchidées spontanées, sont des plantes qui n'ont pas de peau. Ce sont des végétaux qui poussent dans la nature. On les qualifie de rares lorsque le nombre de leur peuplement est faible. Roland Lemoigne, l'un des fondateurs de la Société d'Orchidées Loire-Océan, la SOLO, a constaté qu'un terrain situé sur l'une des 24 communes de Nantes Métropole était envahi par des plantes opportunistes et que les orchidées disparaissaient. Depuis 2020, la SOLO assure l'entretien de ce terrain.
Nous sommes sur la commune de Sainte-Luce. C'est le chemin de la barre qui rejoint le chemin de halage.
Roland Lemoigne.
Et à cet angle-là, il y a une parcelle qui est tout à fait indépendante des autres champs exploités, qui contient plusieurs plantes rares. Il y a des orchidées, mais il y a aussi une fougère rarissime, qui est ici très abondante. Et donc cette partie a été classée en zone naturelle sensible par le département de Loire-Atlantique et est classée dans la ZNIEF, qui longe la Loire, c'est-à-dire que c'est une zone qui ne peut pas être constructible. Mais le problème est qu'elle est en train de se faire envahir, notamment parce qu'on ne s'occupe pas des arbres. Et donc notre travail consiste à nous occuper du lierre qui entoure les arbres, aidé par le département qui va ensuite abattre petit à petit les arbres pour retourner à l'ancienne émonde. Les arbres étaient à peu près taillés à 1 mètre de hauteur. Ceci permet à ce moment-là, cette parcelle, d'être beaucoup moins ombragée, mais en même temps de faire se développer des orchidées dont certaines ici sont très rares.
Ça veut dire ZNIEF.
Zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et forestier.
Est-ce qu'on peut s'étonner que ce soit une zone avec des espèces rares ?
Alors, c'était une ancienne parcelle qui avait une exploitation de type familial, mais qui a été abandonnée il y a plus de 30 ans, probablement au moins 40 ans. Ce qui fait que les sels minéraux qui empêchent le développement des orchidées ont été lessivés. Et il se trouve que la parcelle est en équilibre. Cet équilibre était intéressant, c'était l'équilibre d'une pelouse littorale de la Loire. Mais il se trouve que les arbres ont poussé spontanément, on ne les a pas abattus, et l'ombre qu'ils font maintenant permet à des plantes invasives de venir s'installer et de détruire les stations d'orchidées. Donc notre travail est d'alerter, et on s'en occupe physiquement, d'alerter la commune qui a décidé d'agir pour que justement cette aire de pique-nique ombragée ne soit pas trop ombragée.
Donner de votre temps pour entretenir la parcelle de Sainte-Luce. Alors, il n'y a pas de mauvaises herbes, mais on enlève quoi ?
Bien là, on enlève les ombellifères.
Steven Dupuis.
Ce sont des plantes qui poussent très vite et qui étouffent tout ce qu'il y a autour. On vient une fois par mois environ.
Et à chaque fois pour enlever ces herbes-là ?
Non, plutôt cet hiver et début printemps, on enlevait le lierre qui poussait sur les arbres qui est tout autour.
Vous utilisez quels outils ?
Que des outils manuels. Donc fourche, sécateur, petite scie à main, vraiment rien de dangereux.
C'est très curieux, il y a des orchidées indigènes qui sont rares.
Qui poussent partout sans qu'on le sache. Oui, c'est très curieux. Là, moi, j'ai découvert ça il y a environ 3 ans. Donc ça a été beaucoup plus tard que les orchidées exotiques. C'était une vraie surprise.
Et au niveau bilan carbone, c'est sympa puisqu'on est à proximité de Nantes, donc on n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour pouvoir apprécier.
Ah oui, c'est juste à côté.
Là, ce qui est rare surtout, c'est que 5 espèces se retrouvent sur la même parcelle et accompagnées d'une fougère très rare aussi, ce qui fait qu'elle est tout à fait exceptionnelle au niveau du biotope. Et probablement donc qu'on va petit à petit découvrir d'autres espèces rares parce qu'elle a forcément un intérêt évident vu la densité d'espèces par rapport à sa surface. Il fait 3700 m². Bon, essayer de trouver 5 espèces d'orchidées sur 3700 m², il n'y a qu'ici.
Vous savez que poussent sur cette parcelle des orchidées indigènes ?
Les petites violettes là ? Ah oui, je ne savais pas que c'était des orchidées, mais bon, je sais qu'il y a des fleurs par là, oui.
Vous êtes du coin ?
Oui, oui.
Là, il y a des espèces à protéger.
Comme les frétillères, là. Il y a la pancarte d'habitude, elle est toujours là, qui dit qu'il faut garder ça.
Merci, Janine.
Ce qui nous gêne un peu, c'est que, bon, c'est en même temps aire de pique-nique, donc c'est un peu piétiné. Bon, il y a même droit à avoir des feux le week-end.
Jocelyne Sirmant.
Mais on a constaté quand même que depuis qu'on y travaille, il y a pas mal d'orchidées indigènes qui ont repris des forces et qui réapparaissent et qui se sont même un petit peu multipliées.
En France, environ 160 espèces d'orchidées rares sont répertoriées. Il est fort possible que près de chez vous, sans le savoir, vous les côtoyez. Si vous repérez une orchidée rare, n'hésitez pas à contacter la Société d'Orchidées Loire-Océan ou la Société Botanique du Centre-Ouest.
Notre but, c'est quand même aussi la protection. Avant tout, c'est surtout ça.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Lucie, j'aime ce moment où tu nous fais partager un morceau de ta playlist. Dis-moi, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui ?
Eh bien, je ne fais pas très original ce midi, Margot. J'ai décidé de vous faire écouter un morceau du londonien James Blake. Vous le connaissez certainement pour son travail avec Kendrick Lamar, Bon Iver, Beyoncé, Travis Scott. Bref, la liste est longue. Eh bien, ce midi, on écoute un morceau de son premier album qui porte son nom et qui est sorti en 2011. C'est Unluck de James Blake.
L'agité du local est terminée, mais à 19h, on écoutera la sagesse de Tugue et dans cette émission se posera une question, Lucie.
Exactement, Margot. On va se demander, est-ce que transformer la nature, c'est gagner en liberté ?
On poursuit la soirée à 21h en écoutant All Blues,
qui nous emmène entre autres au Montfort All Blues Festival.
Une bonne journée sur les ondes de l'autre radio. Lucie, tu reviens dans l'agité lundi. Nous, chers auditeurs, on se retrouve demain à 12h15 pour le dernier jour de la semaine. D'ici là, profitez bien de votre journée et bien sûr, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Et quand même, d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.